Germaine de Staël, Delphine, partie 5. Lettre 26 à 32 comprise. Mademoiselle d'Albémare à Delphine, Montpellier, ce 18 avril. Ma chère Delphine, je frémis de la lettre de Madame de Serlèbes que je viens de recevoir. Au nom du ciel, retirez le consentement que vous avez donné à Madame de Ternant. Je sens tout ce qu'il y a de cruel dans votre situation, mais rien ne doit vous décider à un engagement irrévocable. Ni vos opinions, ni votre caractère ne sont d'accord avec les obligations que vous voulez vous imposer. Votre pitié généreuse vous a fait commettre une grande imprudence, mais il n'est point impossible de faire connaître le véritable motif de votre démarche. Monsieur de Valorbe ne peut-il pas se repentir et vous justifier authentiquement? Pensez-vous que le reste de votre vie dépende de ce qui sera dit pendant quelques jours dans un coin de la Suisse ou de l'Allemagne? Si vous n'aviez pas peur d'être condamné par Léonce, combien il vous serait facile de braver l'injustice de l'opinion. Vous, que j'ai vu trop disposé à la dédaigner, vous lui sacrifiez votre vie tout entière. Quel délire de passion, car, ne vous y trompez pas, votre seul motif, c'est la crainte d'être un instant soupçonné par Léonce, ou d'en être moins aimé, quand même il connaîtrait votre innocence, si votre réputation restait altérée. Mon ami, peut-on immoler sa destinée entière à de semblables motifs? Le plus grand malheur des femmes, c'est de ne compter dans leur vie que leur jeunesse. Mais il faut pourtant que je vous le dise, dussé-je vous indigner. Dans 10 ans, vous n'éprouverez plus les sentiments qui vous dominent à présent. Dans 20 ans, vous en aurez perdu même le souvenir. Mais le malheur auquel vous vous dévouez ne passera point, et vous vous désespérerez d'avoir soumis votre destinée entière à la passion d'un jour. Encore une fois, pardonnez, je reviens à ce que vous pouvez entendre sans vous révolter contre la froideur de ma raison. Aviez-vous pensé que vous mettiez une barrière éternelle entre Léonce et vous? S'il était libre une fois, si jamais, juste ciel, dites-moi, l'imagination la plus exaltée aurait-elle pu inventer des douleurs aussi déchirantes que le seraient les vôtres? Vous vous êtes mal trouvé de vous livrer à l'enthousiasme de votre caractère. La réalité des choses n'est point faite pour cette manière de sentir. Vous mettez dans la vie ce qui n'y est pas, ce qu'elle ne peut contenir. Au nom de notre amitié, au nom encore plus sacré de celui que vous nommez votre bienfaiteur, de mon frère, renoncez à votre noviciat avant que l'année soit écoulée. Le temps amènera ce que la pensée ne pouvait prévoir. Mais que peut-il le temps contre les engagements irrévocables? Je crains beaucoup l'ascendant qu'a pris sur vous Madame de Ternant. Sa ressemblance avec Léonce en est, j'en suis sûre, la principale cause. Elle agit sur vous sans que vous puissiez vous en défendre. Sans cette fatale ressemblance, Madame de Ternant vous déplairait certainement. La femme qui n'a pu se consoler de n'être plus belle doit avoir l'âme la plus froide et l'esprit le plus léger. Moi qui ai été vieille dès mes premiers ans, puisque ma figure ne pouvait plaire, j'ai su trouver des jouissances dans mes affections. Et si vous étiez heureuse, j'aimerais la vie. Madame de Ternant avait des enfants. Pourquoi n'a-t-elle pas désiré de vivre auprès d'eux? Elle était riche. Pourquoi n'a-t-elle pas mis son bonheur dans la bienfaisance? Elle n'a vu dans la vie qu'elle, et dans elle que son amour-propre. Si elle avait été un homme, elle aurait fait souffrir les autres. Elle était femme, elle a souffert elle-même. Mais je ne vois en elle aucune trace de bonté. Et sans la bonté, pourquoi la douleur même inspirerait-elle de l'intérêt? En a-t-elle pour vous cette femme cruelle quand elle vous offre l'alternative du déshonneur ou d'une vie qui ressemble à la mort. Vous avez la tête presque perdue. Vous ne croyez plus à l'avenir. Vous êtes saisi par une fièvre de l'âme qui ne se manifeste point aux yeux des autres, mais qui vous égare entièrement. Je conçois qu'il est des moments où l'on voudrait abdiquer l'empire de soi. Il n'y a point de volonté qu'on ne préfère à la sienne, et la personne qui veut s'emparer de vous le peut alors sans avoir besoin pour y parvenir de mériter votre estime. Mais quand on se trouve dans une pareille situation, ce qu'il faut, mon ami, c'est ne prendre aucune résolution, replier ses voiles, laisser passer les sentiments qui nous agitent, employer toute sa force à rester immobile. Et 6 mois jamais ne se sont écoulés sans qu'il y ait eu un changement remarquable en nous-mêmes et autour de nous. Ma chère Delphine, avant que votre année du noviciat soit finie, j'irai vous chercher. Et si mes raisons ne vous ont pas persuadée, j'oserai, pour la première fois, exiger votre déférence. Lettre 27. De Delphine à Mademoiselle d'Albémare. De l'abbaye du Paradis, ce 1er mai. Pardonnez, ma sœur, si je ne puis vous peindre avec détail les sentiments de mon âme. Parler de moi me fait mal. Ce que je puis vous dire seulement, c'est que je souhaiterais sans doute qu'avant la fin de mon noviciat, une circonstance heureuse me permît de ne pas prononcer mes vœux. Mais tant que je n'aurai que l'alternative de ces vœux ou de mon déshonneur, rien ne peut faire que j'hésite à les prononcer. Pardon encore de repousser ainsi vos conseils et votre amitié. Mais il y a des situations et des douleurs dans la vie dont personne ne peut juger que nous-mêmes. Lettre 28. Madame de Mondeville, mère de Léonce, à sa sœur, Madame de Ternant. Madrid, ce 15 mai 1792. Vainement, ma chère sœur, vous vous croyez certaine d'avoir fixé Madame d'Albémare auprès de vous. Vainement, vous pensez que je n'ai plus rien à craindre du fol amour de mon fils pour elle. Tous vos projets peuvent être renversés si vous ne suivez pas le conseil que je vais vous donner. Une lettre de Paris m'apprend que Mathilde est malade. Elle le cache à tout le monde et plus soigneusement encore à mon fils. Mais le jeûne rigoureux auquel elle s'est astreinte cette année, quoiqu'elle fût grosse, lui a fait un mal peut-être irréparable. Et l'on m'écrit que si, dans cet état, elle persiste à vouloir nourrir son enfant, certainement elle n'y résistera pas 2 mois. Si elle meurt, mon fils ne perdra pas un jour pour découvrir la retraite de Madame d'Albémare. Il l'engagera bien aisément à renoncer à son noviciat, et rien au monde, alors, ne pourra l'empêcher de l'épouser. Quelle est donc la ressource qui peut nous rester contre ce malheur? Une seule. Et la voici. Il faut obtenir des dispenses de noviciat pour Madame d'Albémare et lui faire prononcer ses vœux tout de suite. Rien de plus facile et rien de plus sûr que ce moyen. J'ai déjà parlé au nonce du pape en Espagne. Il a écrit en Italie. L'on ne refusera point ce que vous demanderez. Envoyez un courrier à Rome. Donnez les prétextes ordinaires en pareil cas, et quand vous aurez obtenu la dispense, offrez, comme vous l'avez déjà fait à Madame d'Albémare, le choix de prononcer ses vœux ou de sortir de votre maison. Elle n'hésitera pas, et nous n'aurons plus d'inquiétude, quoi qu'il puisse arriver. Nous ne pouvons nous reprocher en aucune manière d'abréger le noviciat de Madame d'Albémare. Elle a manifesté son intention de se faire religieuse. Elle a 22 ans, elle est veuve, personne n'est plus en état qu'elle de se décider. Et ce n'est pas la différence de quelques mois qui rendra ses vœux moins libres et moins légitimes. Mais de quelle importance n'est-il pas pour nous de ne pas nous exposer à attendre les couches de Mathilde? Si elle meurt, Madame d'Albémare vous quitte. Vous perdez ainsi pour jamais une société qui vous est devenue nécessaire. Et moi, j'aurai pour belle-fille un caractère inconsidéré, une tête imprudente qui mettra le trouble dans ma famille. Je suis vieille, assez malade. Je veux mourir en paix et rappeler près de moi mon fils. Soit que Mathilde vive ou qu'elle meure, Léonce m'aimera toujours par-dessus tout s'il n'est pas lié à une femme dont il soit amoureux et qui absorbe entièrement toutes ses affections. Mon esprit, au moins à présent, lui est nécessaire. S'il a une femme qui est aussi de l'esprit et de plus de la jeunesse et de la beauté, que serais-je pour lui? Vous m'avez avoué, ma sœur, que vous vous préfériez aux autres. Moi, si je suis personnelle, c'est dans les sentiments que je le suis. Je donnerai ma vie avec joie pour le bonheur de mon fils. Mais je ne voudrais pas qu'une autre que moi fît ce bonheur. Et je me sens de la haine pour une personne qui l'aime mieux que moi. Vous voyez, chère sœur, avec quelle franchise je vous parle. Mais songez surtout combien il est essentiel de ne pas perdre un moment pour nous préserver des chagrins qui nous menacent. Lettre 29. Madame de Serlèbe à Mademoiselle d'Albémare. De l'abbaye du Paradis, ce 20 juin. Tout est dit. Le temps sur lequel je comptais nous est arraché. Les vœux éternels sont prononcés. Ah, nous avons été entraînés par je ne sais quelle puissance inexplicable. Et maintenant qu'il faut que je vous rende compte de ces malheureux jours, leur souvenir se perd dans le trouble qui nous a peut-être empêchés de faire usage de notre raison. Depuis près de 3 mois que Madame d'Albémare était novice, Madame de Ternan avait cherché tous les moyens de prendre de l'ascendance sur elle. Ce n'était point par de l'art ou de la fausseté qu'elle y était parvenue. Il faut rendre à Madame de Ternan la justice qu'elle a beaucoup de vérité dans le caractère, mais tant d'humeur et de personnalité qu'il faut ou se brouiller avec elle ou céder à ses volontés. Combien, dans la plupart des associations de la vie, n'y a-t-il pas d'exemple de l'empire de l'humeur et de l'exigence sur la douceur et la raison? Dès qu'un lien est formé de manière qu'on ne puisse plus le rompre sans de graves inconvénients, c'est le plus personnel des deux qui dispose de l'autre. Je me croyais sûr cependant que nous avions encore plusieurs mois devant nous. Je comptais sur votre arrivée que vous aviez annoncée. Je me flattais que pendant ce temps, il surviendrait des incidents qui délivreraient Madame d'Albémare sans la compromettre. Lorsqu'il y a 3 jours, je vins la voir à son couvent, je la trouvai beaucoup plus triste qu'elle ne l'avait été jusqu'alors. Interrogée par moi, elle me dit que Madame de Ternan avait obtenu à Rome des dispenses de noviciat et qu'elle voulait l'obliger à prononcer ses vœux dans 3 jours. Indignée de cette résolution, j'en demandai les motifs. « Elle ne me les a pas fait connaître, » répondit Madame d'Albémare. Elle s'est retranchée dans la phrase ordinaire dont elle se sert quand elle a de l'humeur contre moi. Elle m'a dit que si je ne voulais pas suivre ses conseils, elle rendrait publique la lettre du commandant de Zèle et se conformerait à la délibération des sœurs qui, en conséquence de cette lettre, avaient décidé qu'elle ne me garderait pas dans leur couvent. J'ai cependant persisté dans mon refus d'abréger mon noviciat, continua Delphine. Mais cette affreuse menace me remplit de terreur. J'essayai alors de rassurer Madame d'Albémare, et je me déterminai à parler à Madame de Ternan malgré l'éloignement qu'elle m'inspire. Je lui fis demander de la voir. Elle me fit dire capricieusement de revenir le lendemain. En arrivant, je lui expliquai l'objet de ma visite. Elle me dit, avec une franchise d'égoïsme tout à fait originale, qu'elle avait des raisons de craindre que si le noviciat de Delphine durait 1 an, les circonstances ou ses amis ne la fissent renoncer au projet de se faire religieuse et qu'elle ne voulait pas s'exposer à perdre la société d'une personne qui lui plaisait extrêmement. Je voulus lui parler alors du plaisir d'être généreuse envers ses amis, de se sacrifier pour eux. Elle me répondit honnêtement, mais comme s'il fallait de la politesse pour ne pas se moquer de ce qu'elle appelait ma mauvaise tête. Et non seulement elle n'était pas ébranlée par tout ce que je pouvais lui dire, mais elle n'avait pas l'air de croire qu'on pût hésiter sur ce que je proposais et répétais sans cesse. Comment peut-on me demander de ne pas employer tous mes moyens pour faire réussir une chose que je souhaite? C'est vraiment de la folie. Je retournai ensuite vers Delphine et je voulus l'engager à sortir de l'abbaye, à braver ce qu'on pourrait dire en venant s'établir chez moi. Mais je vis avec douleur qu'elle n'en avait pas la force. Autrefois, me dit-elle, je ne craignais pas du tout l'opinion et je ne consultais jamais que le propre témoignage de ma conscience. Mais depuis que le monde a trouvé l'art de me faire mal dans mes affections les plus intimes, depuis que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'asile contre la calomnie, même dans le cœur de ce qu'on aime, j'ai peur des hommes et je tremble devant leur injustice presque autant que devant mes remords. Enfin, j'ai tant souffert que je n'ai plus qu'un vif désir, celui d'éviter de nouvelles peines. C'est ainsi, mademoiselle, que, me trouvant entre l'inflexible personnalité de Madame de Ternant et l'effroi que causait à Delphine la seule idée d'un éclat déshonorant, tous mes efforts auprès de l'une et l'autre étaient inutiles. Cependant, je me flattais avec raison d'avoir plus d'ascendance sur Delphine. Elle redoutait les vœux précipités qu'on exigeait d'elle et souhaitait extrêmement de pouvoir y échapper. J'étais avec elle et nous cherchions ensemble s'il existait un moyen d'ébranler la résolution de Madame de Ternant lorsqu'elle entra dans la chambre avec un air d'indignation qui me fit battre le cœur. « Voilà, madame, dit-elle à Delphine, la lettre que vous m'attirez. C'en est trop. Il faut pourtant que vous cessiez de porter le trouble dans cette maison. » Je lus à Delphine, tremblante, la lettre que Madame de Ternant consentit à me donner. Elle contenait des menaces insensées et offensantes que Monsieur de Valorbe écrivait à Madame de Ternant. Il lui déclarait qu'il avait appris qu'elle voulait forcer Madame d'Albémare à se faire religieuse, et que dans peu de jours, espérant obtenir sa liberté du gouvernement autrichien, il viendrait réclamer lui-même Madame d'Albémare et accuser publiquement quiconque voudrait la retenir. Il ajoutait à ces menaces, déjà très blessantes, quelques mots qui indiquaient le peu de dévotion de Madame de Ternant et les motifs de vanité qui lui avaient fait haïr le monde. Après une telle lettre, il n'était plus possible d'espérer que Madame de Ternant fléchît jamais sur la volonté qu'elle avait exprimée. Le malheureux Valorbe n'avait certainement dans cette circonstance que le désir d'être utile à Madame d'Albémare, et pour la seconde fois, il la perdait. Madame de Ternant était irritée à un degré excessif. C'est une personne qu'on ne peut plus ramener quand une fois son amour-propre est offensé. Madame d'Albémare voulut dire quelques mots sur ce qu'il serait injuste de la rendre responsable du caractère de Monsieur de Valorbe, elle qui en avait été si cruellement victime. « Que vous soyez innocente ou non, madame, de son insolente folie, répondit Madame de Ternant, il n'en est pas moins vrai qu'il veut vous enlever d'ici quand il aura recouvré sa liberté. Pour prévenir cette scène scandaleuse, il ne reste que deux parties à prendre. Ou vous ferez perdre toute espérance à Monsieur de Valorbe en vous fixant dans cette maison pour toujours, ou vous voudrez bien en sortir. Et comme il ne faut pas que Monsieur de Valorbe puisse se flatter que ses menaces m'ont fait peur, je ferai connaître la délibération de nos sœurs et ses motifs. J'espérais un moment que le ton impérieux de Madame de Ternan avait révolté Delphine et qu'elle allait tout braver pour lui résister. Car elle lui répondit avec beaucoup de dignité « Vous abusez trop, madame, de mon malheur, et vous comptez trop peu sur mon courage. » Dans ce moment, on apporta une lettre de vous. « Pardonnez-moi, mademoiselle, la peine que je vais vous causer. Ne vous accusez pas, cependant, car je suis sûre que cette lettre n'a rien changé à l'événement. Il était inévitable. » Madame de Ternan prit, avec sa hauteur accoutumée, votre lettre adressée à Madame d'Albémare et dit à Delphine « Tant que vous êtes novice dans ma maison, madame, j'ai le droit de lire vos lettres. » « La voici, continua-t-elle après l'avoir parcourue. On y parle seulement de mon neveu et de l'heureux accouchement de sa femme. » Delphine tressaillit au nom de Léonce, et la main qu'elle tendit pour recevoir la lettre tremblait extrêmement. Vous savez que vous lui mendiez que Mathilde était accouchée d'un fils et que sans doute elle se portait bien puisqu'elle était décidée à nourrir son enfant. Vous ajoutiez que Léonce paraissait sentir vivement le bonheur d'être père. Delphine baissa son voile pour lire cette lettre afin de cacher son trouble. Je lui demandai de la voir et comme elle me la donnait, sa main souleva par hasard ce voile, et nous vîmes, baignés de pleurs, ce visage céleste que toutes les impressions de l'âme, même les plus douloureuses, embellissent encore. Elle rougit extrêmement quand elle s'aperçut que son émotion, dans une pareille circonstance et pour un semblable sujet, avait été connue. Et c'est alors qu'avec l'accent le plus sombre, et l'expression de découragement la plus déchirante, elle dit « C'est assez résister, c'est assez combattre pour une existence infortunée contre tous les événements et tous les caractères. Mes amis, le monde et mon propre cœur sont lassés de moi, c'est assez. Demain, madame, continua-t-elle en s'adressant à Madame de Ternan, demain, à pareille heure, je me lierai par les serments que vous me demandez. Que personne n'en soit témoin, je vous en conjure. Ma disposition ne me rend pas digne de l'appareil qui donnerait à cette cérémonie un caractère imposant. Séparez-moi du passé, de l'avenir, de la vie. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je puis. » Madame de Ternan embrassa Delphine avec une sorte de triomphe qui me fit bien mal. Ce qui lui causait le plus de plaisir encore dans la résolution de Delphine, c'était d'être parvenue à se faire obéir. Elle me demanda de la laisser seule avec Madame d'Albémare tout le jour pour la préparer au lendemain. Il fallut m'éloigner. Delphine, profondément absorbée, ne remarqua point mon départ. Le lendemain, j'arrivai de bonne heure au couvent. Les religieuses entouraient Delphine et lui demandaient si elle sentait la grâce descendre dans son cœur. Elle ne répondait rien pour ne pas les scandaliser ni les tromper. Mais elle m'a dit, depuis, que dans aucun temps de sa vie, elle n'avait éprouvé des sentiments moins conformes à la situation où elle se trouvait, car rien ne lui paraissait plus contraire à l'idée qu'elle a toujours nourrie de la véritable piété, que ces institutions exagérées qui font de la souffrance le culte d'un dieu de bonté. Les cérémonies de deuil dont on l'entourait ne produisirent aucune impression. Une fois, m'a-t-elle dit, elle avait été profondément touchée d'une semblable cérémonie, mais son âme était maintenant si fort occupée qu'aucun objet extérieur ne frappait même son imagination. L'abbesse arriva. Elle avait mis du soin dans l'arrangement de son costume. Elle avait l'air plus jeune, et, sans doute, elle rappelait davantage Léonce, car Delphine, s'approchant de moi, me dit « Considérez, Madame de Ternan, c'est la ressemblance de Léonce que je vois, c'est elle qui marche devant moi. Puis-je me tromper en la suivant? N'y a-t-il pas quelque chose de surnaturel dans cette ombre de lui qui me conduit à l'autel ?»« Oh, mon Dieu, continua-t-elle à voix basse, ce n'est pas à vous que je me sacrifie. Ce n'est pas vous qui exigez l'engagement insensé que je vais prendre. C'est l'amour qui m'entraîne. C'est l'injustice des hommes qui m'y condamne. Pardonnez si l'on me force à prononcer votre nom. Je ne cherche ici qu'un asile. C'est dans mon cœur qu'est votre culte. Toutes ces vaines démonstrations, toutes ces folles promesses, je vous en demande le pardon, loin d'en espérer la récompense. Je ne puis vous peindre, mademoiselle, ce qu'il y avait d'effrayant dans ce discours et dans l'expression de douleur qu'on voyait alors sur le visage de Delphine. Si elle s'était faite religieuse avec les sentiments de cet état, j'aurais versé plus de larmes, mais j'aurais moins souffert. Il me semblait que je la voyais marcher à la mort, sans réflexion, sans terreur, avec cet égarement qui a quelquefois le caractère de l'insouciance, mais qui ne vient cependant que de l'excès même du désespoir. Les religieuses accompagnèrent Delphine sans ordre, sans recueillement. Elles avaient, sans s'en rendre compte, une idée confuse du motif de tout ce qui se passait. Delphine était plus belle que je ne l'ai vue de ma vie, mais ses charmes ne venaient point de l'abattement ni de la pâleur qui la rendait si intéressante depuis quelque temps. Elle avait, au contraire, une expression animée qui tenait, je crois, de la fièvre. Elle ne leva pas même une seule fois les yeux vers le ciel, comme si elle eût craint de l'attester dans une pareille circonstance. Madame de Ternant remplissait les devoirs de sa place avec décence, mais sans que rien en elle pût émouvoir le cœur par des sentiments religieux. Un prêtre d'un talent médiocre fit un discours que personne n'écouta fort attentivement. Cependant, lorsqu'à la fin, suivant l'usage, il interpella formellement la novice pour lui recommander de ne point embrasser l'état de religieuse par des motifs humains, Delphine tressaillit, et, laissant tomber sa tête sur ses deux mains, elle fut absorbée dans une méditation si profonde qu'aucun des objets qui l'entouraient ne paraissait attirer son attention. Elle devait, dans un moment convenu, s'avancer au milieu du chœur, et comme elle n'avait pas l'air de penser à quitter sa place, j'eus un moment l'espoir qu'elle allait refuser de prononcer ses vœux. Mais cet espoir dura peu. L'abbesse commença la première à chanter, ainsi que cela est ordonné dans ces cérémonies, un psaume très solennel, dont les paroles sont « Souviens-toi qu'il faut mourir, memento mori ». La voix de Madame de Ternant est belle et jeune encore. Je reconnus dans sa manière de prononcer cet accent espagnol dont Madame d'Albémar m'avait souvent parlé, et je compris d'abord, à l'extrême émotion de Delphine, que tout lui rappelait Léonce. Enfin, elle se leva et se dit à elle-même, assez haut cependant pour que je l'entendisse, « Eh bien, puisque le ciel se sert de cette voix pour m'ordonner de mourir, il n'y faut pas résister. Léonce, Léonce, répéta-t-elle encore, en se jetant à genoux, reçois mon sacrifice. » Sa beauté, en ce moment, était enchanteresse, et je pensais, avec un mélange d'étonnement et de terreur, à cet amour tout-puissant, à cet homme inconnu, mais sans doute extraordinaire, puisque son souvenir occupait entièrement cette charmante créature qui s'immolait à sa tendresse pour lui. Pendant le reste de la cérémonie, Delphine montra assez de force, et ce qui acheva de me confondre, c'est que, rentrée chez elle avec moi lorsque tout fut terminé, elle ne paraissait pas se ressouvenir qu'elle eût changé d'état. Elle ne disait plus rien qui eût aucun rapport avec ce qui venait de se passer, et s'occupait seulement de la lettre qu'elle voulait écrire à M. de Valorbe, en lui apprenant la résolution qu'elle venait d'accomplir, et le priant d'accepter une partie de sa fortune. Je ne combattis point cette généreuse pensée. Madame d'Albémar ne peut se soutenir dans sa situation que par l'enthousiasme. Tant qu'il lui restera quelque action noble à faire, elle ne sentira pas tout ce que son état a de cruel. Elle a pris de grandes précautions pour qu'on ne sache point son nom, afin que de longtemps Léonce ne puisse découvrir ce qu'elle est devenue, ni les motifs qui l'ont forcée à se faire religieuse. elle craindrait qu'il ne s'en vengeât sur M. de Valorbe. Enfin, je l'ai vue, pendant les 2 heures que j'ai passées avec elle, constamment occupée des autres, et dans l'éclat de la jeunesse et de la beauté, parlant d'elle-même, comme si elle eût déjà cessé d'exister. Maintenant, hélas, mademoiselle, en écrivant à votre amie, songez que son malheur est sans ressources. Encouragez-la à le supporter. Vous avez de l'empire sur elle. Faites-en l'usage que la nécessité commande. Ne me haïssez pas de n'avoir pu sauver Delphine. J'ai assez souffert pour que vous ne puissiez pas douter des sentiments dont je suis pénétrée. Lettre 30. Monsieur de Valorbe à Madame d'Albémar. Zelle, ce 24 juin. Vous avez eu tort de vous faire religieuse. Vous avez craint d'être déshonorée par les heures passées à Zelle. Et vous n'avez pas daigné penser que je vous justifierais avant de mourir. En mourant, je ferai connaître la vérité. Elle parviendra à Montalt, qui est maintenant en Languedoc. Je lui permettrai d'en instruire Léonce, une fois dans quelque temps, quand mes cendres seront assez refroidies pour que votre triomphe ne les insulte pas. Vous serez alors bien affligé de vous être séparé pour jamais du monde. Mais pourquoi n'avez-vous pas compté sur ma mort? Je vous l'avais promise, il fallait m'en croire. Si quelqu'un avait voulu m'aimer, je sens que je me serais adouci. Je serais redevenu digne de ce qu'on aurait fait pour moi. Mais à qui importait-il que je vécusse? Savez-vous ce qu'il y a d'horrible dans ma situation? Ce n'est pas de terminer une vie que la ruine, les souffrances, le déshonneur me rendent odieuse, mais c'est de n'avoir pas au fond du cœur un seul sentiment doux, de ne pouvoir verser des pleurs sur mon sort, d'être dur pour moi comme l'a été le reste des hommes, de me haïr, de repousser l'instinct de la nature par une sorte de férocité qui m'inspire la dérision de mes propres douleurs. Oui, les hommes m'ont enfin mis de leur parti. Je me traite comme ils m'ont traité. Et si c'est un crime de repousser tous les secours qui pourraient conserver la vie, je le commets, ce crime, avec le sang-froid barbare qui ferait immoler un ennemi trop longtemps détesté. Delphine, vous que j'aimais, vous qui pouviez tirer encore des larmes de ce cœur desséché, vous avez mieux aimé nous tuer tous les deux que de réunir nos malheureuses destinées. Écoutez-moi, je vous ai pardonné. Vous valiez encore mieux que le reste de la terre. Votre réputation sera complètement rétablie. Elle le sera par moi. Léonce ne pourra pas former contre vous le moindre soupçon. Malheureux que je suis, il y aura encore de l'amour après moi. Il y aura des cœurs qui seront heureux. Qu'ai-je dit, hélas, pauvre Delphine? Ce ne sera pas vous qui jouirez de la vie. Je vous le répète encore, pourquoi vous êtes-vous faite religieuse? C'était moi que vous vouliez fuir et vous préfériez le tombeau à notre hymen. Mais ne pouviez-vous pas attendre quelques moments, quelques jours? Je n'en demandais pas plus pour achever de vivre. Oh, que je souffre! Mourir est plus douloureux encore que je ne croyais. Lettre 31. Madame de Serlèbe à Mademoiselle d'Albemar, Zurich, ce 28 juin 1792. L'infortuné Valorbe n'est plus. En mourant, il a écrit à Madame d'Albémar qu'il la justifierait dans l'opinion. Ainsi, 8 jours après avoir prononcé ses vœux, elle apprend que le sacrifice affreux qu'elle a fait est devenu inutile. La mort de Monsieur de Valorbe a été terrible. En recevant la lettre de Madame d'Albémar qui lui apprenait qu'elle avait prononcé ses vœux, il est tombé dans un accès de désespoir tel qu'il a déchiré lui-même ses blessures déjà rouvertes, et pendant 3 jours, Il a refusé tous les secours qu'on voulait lui donner pour le sauver. Mais par une inconséquence déplorable, quand il n'y avait plus de ressources, il a vivement désiré qu'on pût en trouver. Violent et faible jusqu'au dernier moment, il a regretté la vie quand sa volonté avait appelé la mort. Irrité par ses douleurs, irrité par la résistance que la nature opposait à ses désirs, il a éprouvé comme une sorte de rage de mourir, après avoir maudit l'existence, tant qu'il était en son pouvoir de la conserver. Plusieurs fois en expirant, il a nommé Madame d'Albémar et l'a accusée de son sort. Madame de Ternant, qui ne ménage jamais les autres, a remis à Delphine une lettre de zèle qui contenait tous ces détails. Et quand je suis arrivée à l'abbaye, Madame d'Albémar savait tout. Et, se jetant dans mes bras, elle m'a dit « Jusqu'à ce jour, je n'avais fait de mal qu'à moi. Et maintenant, je suis coupable de la mort d'un homme qui avait conservé la vie à mon bienfaiteur. Oh, que j'ai pitié de lui! Oh, que je voudrais, aux dépens de ma vie, l'avoir sauvé! Il vivrait s'il ne m'eût pas connue. Malheureuse, pourquoi suis-je née ?» J'ai dit à Delphine tout ce qui pouvait lui persuader qu'elle ne devait point se reprocher la mort de Monsieur de Valorbe. « Je sais bien, me répondit-elle, que je ne suis pas méchante, mais j'ai d'autres défauts qui causent autant de malheurs autour de moi. L'imprudence, l'entraînement, des sentiments irréfléchis et passionnés. Je n'ai pas su guider ma vie, et j'ai précipité les autres avec moi. Je vous en conjure, lui dis-je, ne considérez pas les malheurs que vous éprouvez comme le résultat de vos erreurs et de vos fautes. Les résolutions que vous avez prises appartenaient à des sentiments tout à fait involontaires. Il y a de la fatalité en nous comme hors de nous, et il ne faut pas plus se révolter contre soi que contre les autres. » Ah, reprit Delphine, tout pouvait encore se supporter, mais la mort, l'irréparable mort. J'essayais de lui parler du soin que Monsieur de Valorbe avait pris de la justifier dans l'esprit de Léonce. « Le malheureux, s'écria-t-elle, c'est un trait de bonté qui doit l'absoudre de tout. Il m'a justifié. » Voilà donc, dit-elle, en s'arrêtant subitement, comme si une pensée tout à fait imprévue se fût emparée d'elle. Voilà déjà la moitié de la prédiction de ma sœur qui s'est accomplie. Ne m'a-t-elle pas dit que la vérité serait connue sur mon voyage à Zèle? Elle le sera. Ne m'a-t-elle pas dit aussi que peut-être un jour Léon se serait libre? Oh, d'où vient que cette idée, la plus invraisemblable de toutes, m'est revenue dans cet instant? C'est parce que mon sort est maintenant irrévocable que je crois aux événements qui me paraissaient impossibles il y a quelque temps. Funeste imagination, s'écria-t-elle. Ah, Dieu! Et elle resta plongée dans le plus profond silence. Madame d'Albémar n'est pas encore en état de vous écrire, mademoiselle. Elle m'a demandé de m'en charger. C'est toujours à vous qu'elle pense au milieu de ses plus grandes peines. Ah, mademoiselle, venez, venez ici. Votre présence est le seul bien qui puisse consoler cette jeune infortunée, privée de tout autre espoir pour le cours de sa longue vie. Henriette de Serlèbe. Lettre 32. Madame de Lébancey à Mademoiselle d'Albémar. Paris, ce 30 juin 1792. Madame de Mondeville est tombée tout à coup très malade, mademoiselle. Elle s'obstine à vouloir nourrir son enfant dans cet état, et si l'on n'obtient pas d'elle d'y renoncer, sa mort est certaine. Je vous donnerai de ces nouvelles exactement. Mon mari ne quitte pas Monsieur de Mondeville. Ne mandez pas à Madame d'Albémar la situation de Mathilde. Il faut lui épargner des impressions trop mêlées, trop diverses, pour ne pas agiter vivement son cœur. Soyez sûre que je ne passerai pas un jour sans vous informer de la santé de Madame de Mondeville. Nous nous entendons sans nous exprimer. Adieu, mademoiselle. Élise de Lébancey.